France Inter.
Bonsoir, c'est Chico.
Bonsoir, je m'appelle Mariam.
C'est Bilal Hassani.
Bonsoir, c'est Alain Chamfort.
Bonsoir, c'est Clara Morgan.
C'est Ludovic Reynaudi.
Je m'appelle Agnès Jaoui.
Dans cette émission, il n'y a pas de présentateur.
Alors il faut que je commence par le texte un peu bidon que tu m'as donné, c'est ça?
Pas de filtre ou de médiateur.
La qualité étant là,
comme la bande-son de ma vie.
Voilà.
L'invité seul prend les commandes du studio pour une heure.
Comme toujours.
Voilà, qu'on va écouter tout de suite et on en parle après.
Et se raconte à travers ses écoutes, ses musiques.
Ah, je sais pas pourquoi cette chanson, ça me...
Et que c'était génial.
Waouh.
Celles qui changent une vie.
Qui ont changé ma vie.
Des musiques qu'ont compté dans ma vie.
Vous écoutez la Radio 2...
Éric Serra
sur France Inter.
Alors, vous avez compris le principe. Donc c'est parti.
Bonsoir, c'est Éric Serra. Je suis musicien, bassiste surtout, mais pas seulement. Vous avez peut-être entendu quelques-unes de mes musiques au cinéma, dans les films de Luc Besson, comme Le Grand Bleu, Léon, Le Cinquième Élément, Lucie et d'autres. Ou peut-être aussi dans le James Bond GoldenEye, la musique, c'était moi. Peut-être que vous m'avez vu en concert aussi, ou que vous connaissez un peu mes projets, comme le dernier Space Project UMO, qui vient de sortir et qui est tourné vers l'espace. Ou bien, vous ne me connaissez pas du tout. Mais comme j'ai le studio pour moi tout seul pendant une heure, on va faire connaissance à travers les musiques que j'écoute depuis des années, les disques qui m'accompagnent et qui ont changé ma façon de voir le monde et de faire de la musique, ou certains artistes que j'ai eu la chance de rencontrer et qui, eux aussi, ont changé ma trajectoire. Alors préparez-vous, bouclez votre ceinture, mise en orbite, c'est la radio d'Éric Serra. We have ignition. Ce premier morceau, c'était donc Henri Salvador, dit Monsieur Gordon Cooper. Et ce disque est sorti quand j'avais 5 ans. Apparemment, j'avoue que je m'en souviens pas très bien moi-même, mais mes parents, mon père m'a toujours dit que c'était... j'avais flashé sur ce morceau que j'entendais à la radio ou à la télé et que j'étais tombé amoureux de ce morceau. Et donc, j'avais reçu pour Noël... cette année-là, ce disque-là, donc c'était le tout premier disque que j'ai eu dans ma vie, ainsi que ma première guitare. Une vraie guitare classique, mais pour les enfants petits. C'est devenu tout de suite mon jouet favori, parce que à l'époque, on n'avait pas de tablette, on n'avait pas de jeux vidéo, ça n'existait pas tout ça. Donc, on était moins distrait. Du coup, la guitare était particulièrement un jouet extraordinaire. C'était complètement magique. Ça fait de la musique, quand même. Et mon père jouait de la guitare aussi, donc je voyais mon père jouer, j'essayais de faire pareil. Et c'est donc vraiment devenu tout de suite mon jouet favori, donc j'en jouais tout le temps, tout le temps. Et ensuite, à l'âge de 11 ans, mine de rien, je commençais à jouer déjà un petit peu, parce que ça faisait 6 ans que j'avais une guitare. Et c'est là que j'ai voulu ma première guitare électrique. Je me rappelle encore la visite au magasin avec toutes les guitares suspendues et je jouais celle-là. C'était génial. Et suite à ça, donc dès que j'ai eu ma première guitare électrique, je relevais les solos de guitare que j'entendais dans les disques. Et finalement, ça a été mon école. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé comme ça. Je suis 100% autodidacte dans la musique. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre. J'écoutais les disques et je les ralentissais s'il fallait, quand il y avait une phrase trop rapide, pour être sûr de ne pas rater une note, pour bien entendre la phrase complète, et j'essayais de faire pareil. Et j'ai fait ça pendant des années, et petit à petit, mine de rien, ça venait. Et le tout premier solo de guitare que j'ai appris à jouer de cette façon-là, c'était un solo de guitare de Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones, donc, d'un album qui s'appelait Get Your Years Out, qui est un live des Rolling Stones. Et le solo de guitare, c'était celui de Sympathy for the Devil. Et c'est d'ailleurs le seul solo de guitare de Keith Richards que j'ai appris.
Yeah.
Voilà, c'était donc la version live de Sympathy for the Devil dans l'album Get Your Yayas Out. Alors, à propos des Rolling Stones, un jour, j'étais en répétition dans un studio de répétition parisien, un grand studio, et je savais que dans le studio juste à côté, dans la pièce à côté, il y avait Mick Jagger qui était là, qui lui était en train de faire des maquettes pour un éventuel prochain album. Il était juste avec un clavier. Et à un moment donné, je suis allé aux toilettes pendant une pause, et il y a un mec qui venait de sortir du studio, de l'autre studio, et qui allait aussi aux toilettes. Du coup, bah, il était devant moi, donc je le laisse passer. Puis je le vois, quoi. C'est-à-dire que je vois la démarche du gars. Et tout. Je vois un mec de, je sais pas, 35-40 ans, quoi, à la démarche et à l'allure. Et en fait, quand il est sorti des toilettes, je me perçois, c'était Mick Jagger, 80 ans et quelques. Et la forme physique qu'il a, il est impressionnant. Et alors, suite à ça, je retourne à la répétition, et à un moment donné, pendant qu'on était en train de jouer, on voit la porte qui s'ouvre, et on voit Mick Jagger qui rentre dans le studio comme ça, puis il nous écoute pendant quelques minutes, et on se regardait, on n'en revenait pas, on avait Mick Jagger en train de nous regarder répéter, c'était génial. Puis après ça, du coup, le patron du studio nous a présenté, et j'ai passé, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes avec lui, c'était super sympa. C'est d'ailleurs une des deux seules personnes au monde à qui j'ai demandé un autographe. J'en ai demandé que deux dans ma vie. Le tout premier, c'était à Gorbatchev, que j'ai croisé dans un avion un jour, Moscou-Paris. Il était assis juste devant moi. Je lui ai demandé un autographe parce que quand même, ce mec me fascinait, quoi. Le mec, il a changé la face de l'histoire, de l'humanité. Et donc, il m'avait dédicacé mon MacBook de l'époque. Et le deuxième autographe, donc, c'est Mick Jagger. Et mon groupe favori à cette époque-là, c'était Led Zeppelin. Et ce qui est marrant, c'est que Led Zeppelin, par contre, je n'ai jamais travaillé un solo de guitare. Je ne sais pas pourquoi, parce que pourtant, il y a un super guitariste, Jimmy Page. Mais mon groupe favori, néanmoins, celui que j'écoutais tout le temps, et puis j'attendais avec impatience la sortie du nouvel album, c'était Led Zeppelin.
Allô, allô.
Ici Eric Serin qui vous parle. Vous êtes dans ma radio sur France Inter.
Days for which they
sun. There's a ground in my eye. Feel with sand as I scale this race in life.
Zeppelin, le morceau Cashmere. Alors, Cashmere, c'est un morceau qui est dans le sixième album de Led Zepp. Et moi, j'étais archi fan de ce groupe depuis le tout premier album. En fait, le premier album est sorti, je devais avoir, je sais pas, 9 ans, 10 ans. J'étais archi fan. Du coup, à chaque fois, j'attendais l'album suivant, jusqu'à celui-ci, donc le sixième, qui était un double album. Ensuite, le septième, qui s'appelait Présence. C'est là que j'ai commencé à décrocher. Je trouvais que c'était beaucoup moins bien soudain. Et puis, bon, après, j'ai complètement décroché. Et du coup, comme je vous le disais, je n'ai quasi jamais travaillé un solo de Jimmy Page, sauf un d'ailleurs. J'en ai travaillé un qui était, je ne sais plus lequel, mais j'en ai travaillé un seul. Et arrivé au bout de quelques années, je jouais tout ça pas mal du tout, quoi. Donc, je pensais, dans mon... dans mon cerveau de jeune homme un peu pas très fufute, j'étais persuadé que bah, j'avais atteint un certain niveau. Voilà, j'étais presque en haut. Et là, un jour, j'avais un copain à cette époque-là qui était plus âgé que moi. Moi, je devais avoir, je sais pas, 14 ans, un truc comme ça. Et ce copain avait une vingtaine d'années et il avait un magasin de disques. Il jouait dans un orchestre de bal, parce que j'habitais dans le sud de la France à cette époque-là. Il jouait dans un orchestre de bal, donc j'étais fasciné, moi, parce que c'était un musicien, un professionnel, quoi. Et il avait un magasin de disques, c'était dans le même village que moi. J'allais tout le temps dans son magasin de disques, évidemment, pour écouter de la musique. Et comme c'était un pote, il me laissait faire. Je mettais un casque et j'écoutais tout un tas de trucs et tout ça. Et un jour, il me dit, tiens, il faut que t'écoutes ça. Et il me sort un album... tout bleu comme ça, avec une enfin, super jolie, qui s'appelle Apocalypse, et c'est un groupe qui s'appelle Mahavishnu Orchestra, et il me dit écoute ça, et là j'ai mis ce disque au casque et ça a complètement bouleversé ma vie. ¶¶ Quand j'ai entendu ça, donc ce jour-là, j'ai halluciné parce que je croyais être arrivé assez haut au niveau. Enfin, je croyais être vers le top, quoi. Et en fait, là, je me suis rendu compte que il y avait encore pas mal de chemin à faire, énormément même. Et en fait, c'était un peu comme si je ne connaissais que la 2D et que je découvrais soudain la 3D dont on ne m'avait jamais parlé, quoi. Ce gars m'a vraiment bouleversé parce qu'il avait un niveau qui est d'ailleurs encore aujourd'hui, personne ne joue mieux que lui, quoi. C'est-à-dire, techniquement parlant, il est au sommet absolu. Et un jour, parce qu'il a habité Paris à une époque dans les années 80, parce qu'il était en couple avec Katia Labeck, et un jour, j'étais en train d'enregistrer la musique de Subway dans un studio dans le 5e arrondissement. Et le patron du studio arrive, pendant que j'étais en train de, je sais plus, d'enregistrer ou de mixer, il ouvre la porte du studio et il me dit « Eric, il faut que je te présente quelqu'un ». Et derrière lui apparaît John McLaughlin. Et là, oh, mais j'étais comme un gosse, quoi. J'étais, mais c'était comme si on me présentait Dieu. Et en plus de ça, du coup, j'ai découvert que John McLaughlin est un mec d'une classe absolue, d'une gentillesse, d'une élégance, et puis en plus, il est super beau gosse. Bref, c'est un extraterrestre. On s'est recroisé deux, trois fois par la suite, et c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration et de respect, d'amitié, de sympathie. Alors bon, j'ai eu plusieurs rencontres importantes dans ma vie, mais il y en a une autre, à peu près à la même époque, qui a été particulièrement importante. Donc on va écouter un morceau, et puis je vous en parlerai après. C'est Eric Serra qui pilote ce soir depuis le studio sur France Inter dans Ma Radio.
De Paris. gravé dans ma case. Ça pas joue mal rasé, tout rigou, ouba, ouba, scoubidou. Wow. Un fil à la barre. S'attache à mes pines, de son ménette me rend fou. Vieux macaque, claque ton bec, ou je t'emboutis à ton bouctou. Hey, ta capacité baka de la mater. La main au panier, les pieds dans le plat.
Alors donc voilà, ça c'est Higelin au Casino de Paris, et c'est moi qui suis à la basse, que vous entendez. Le truc le plus étonnant à l'époque, c'est que personne n'avait jamais fait ça, du slap sur une basse fretless. C'est ce qui donne ce son très particulier, et c'est la plus belle période de ma vie, cette période avec Higelin. On faisait des centaines de concerts, on avait fait des résidences. La toute première résidence que j'ai fait avec lui, c'était au Cirque d'Hiver en 81. On était resté 2 mois au Cirque d'Hiver, 2 mois à jouer tous les soirs, enfin, ou 5-6 soirs par semaine. Ensuite, donc une grosse tournée. Ensuite, le Casino de Paris, on est resté 4 mois. Donc on habitait au casino, quoi. Et du coup, c'était génialissime. Puis il y avait une telle ambiance, c'était comme une famille de cirque, quoi, avec Jacques. Tout le monde s'entendait extrêmement bien, et tout le monde, les musiciens, les techniciens, en tournée, on était 60, enfin c'était génialissime. Et ensuite, on a même fait une résidence quand même de 1 mois à Bercy, et je crois que c'est le seul artiste à avoir fait ça, 1 mois à Bercy. Donc voilà, Higelin, c'était comme à la fois mon deuxième père, mon frère, mon meilleur pote, enfin bref, c'est quelqu'un qui a énormément compté pour moi.
Il y a la base. Caméléon, petit moment, pas de suspension.
Bon, enfin bref, je pourrais vous en parler pendant 4 heures, mais j'ai eu d'autres rencontres qui sont devenues des amis, dont une dame que j'aime beaucoup, que j'ai eu la chance de rencontrer, qu'on va écouter et puis on en parle après.
Thank you.
Alors voilà, les Pretenders, I Go To Sleep, et la chanteuse, donc, lead de ce groupe, c'est Chrissy Hynde. Et j'avais eu la chance de rencontrer Chrissy à Los Angeles parce que c'est une amie intime de Rosanna Arquette, qui était ma compagne à l'époque. Et elle nous avait présenté, on s'était super bien entendu. Et Chrissy m'avait demandé même à l'époque de... Elle voulait faire une version française de cette chanson-là. Et elle m'avait demandé de faire la traduction, quoi, enfin l'adaptation. Et je me souviens qu'on avait fait ça dans ma maison à Los Angeles. On avait passé 2-3 après-midi ensemble à travailler là-dessus. Finalement, je crois qu'elle n'en a jamais rien fait. Et un jour, elle faisait son taratata. Il y avait le taratata spécial Pretenders. Et Chrissy avait demandé à ma maison de disques. Elle voulait faire un duo avec moi. Ça avait surpris tout le monde parce que je sais même pas si j'avais déjà fait mon premier album solo à l'époque, donc j'étais pas particulièrement connu comme chanteur. Alors si, j'avais déjà chanté dans le dernier morceau du Grand Bleu, My Lady Blue, mais bref, c'était pas ma principale activité. Donc tout le monde était surpris, Nagui ou ma maison de disques, mais comment ça se fait qu'elle demande Eric Serra, puis ils m'ont appelé, mais tu la connais? Bah oui, on est potes. Donc c'était super drôle. Et alors je m'étais retrouvé donc en répétition une journée à je sais plus où, dans un studio à côté de Paris, avec les Pretenders pour chanter ça. J'étais évidemment extrêmement intimidé parce que c'est la première fois de ma vie que j'allais chanter en direct à la télé.
Voici Eric Serra avec Chrissy Hynde and the Pretenders, I Go To Sleep.
Et puis c'était pas n'importe quoi, j'étais en duo quand même avec Chrissy Hynde. Mais pendant toute la chanson, je me souviens, on était assis sur des tabourets, genre tabourets de bar, quoi, des tabourets hauts, face à face, très proches l'un de l'autre, et on se regardait dans les yeux pendant toute la chanson, et moi j'étais vraiment comme un gosse, et elle me donnait de la confiance pendant tout le morceau. Elle avait été vraiment géniale, quoi. Et à la fin du morceau, on s'est sauté dans les bras, comme ça, là. Vraiment, elle a été super... elle m'a materné, quoi, ce genre-là. Et ensuite, on est restés très, très proches, très amis, et on est toujours en contact, d'ailleurs. Et c'est vraiment une chanteuse que j'adore. Je trouve que c'est vraiment une des plus grandes chanteuses de rock de tous les temps. Alors, maintenant, pour enchaîner avec la suite, comment faire? Quoi vous dire? écoutons, puis je vais réfléchir. Vous écoutez France Inter et vous êtes bien dans la radio d'Éric Serra. C'était Igor Stravinsky, L'Oiseau de Feu, dirigé par Pierre Boulez avec le New York Philharmonic Orchestra. Donc c'est personnellement ma version préférée. Alors pour les gens qui ne sont pas spécialisés dans la musique classique, d'une version à l'autre, ça peut être vraiment très très différent, quoi. Et Stravinsky, dirigé par Boulez, perso, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est très compliqué, Stravinsky, comme musique, donc c'est pas facile à diriger, mais lui est très très fort. Et alors, ce final de L'Oiseau de Feu, là, je pense que c'est le morceau que je trouve le plus beau morceau que je connaisse. Tout style confondu et tout compositeur confondu. Et alors, à l'époque du Grand Bleu, 3 ans avant que le Grand Bleu sorte, on a commencé à travailler dessus. Pour Luc Besson et pour moi, c'est 3 ans de notre vie, le Grand Bleu. Et au tout début, à cette époque-là, nous, Luc et moi, on était fans de Spielberg, fans de George Lucas, et donc musique John Williams dans tous ces films-là. Et du coup, au départ, Luc voulait que je compose donc une musique dans cet esprit-là, quoi, parce que à cause de nos références. Or, moi étant 100% autodidacte, à cette époque-là, moi je n'avais composé que des trucs rock, pop. Je n'avais aucune idée comment je pouvais réussir à composer de la musique symphonique. Mais sur le coup, j'ai évidemment pas dit non. Juste à partir du jour où Luc m'a dit ça, je me suis plongé dans la musique classique pour essayer de me préparer. Et puis comme finalement j'ai toujours appris la musique de cette façon-là, c'est-à-dire tout seul, je me suis mis à écouter beaucoup, 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 beaucoup de musique classique. Et j'avais eu la chance d'avoir été initié au classique par un pote musicien qui s'appelle Patrick Gauthier, qui jouait avec nous, avec Higelin d'ailleurs, à l'époque du Casino de Paris. Et Patrick m'avait initié à des choses, notamment, il m'avait initié à Stravinsky, et à Debussy, Ravel, etc., qui étaient devenus mes compositeurs favoris déjà à cette époque-là. Mais j'en écoutais pas beaucoup, beaucoup. Stravinsky, m'avait fallu tout un apprentissage pour arriver à apprécier. Parce que au départ, je me souviens que la toute première fois où j'ai écouté du Stravinsky, je comprenais rien, je trouvais ça inaudible, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte finalement que c'était parce que je manquais de culture. C'est complexe, quoi. Et j'ai écouté ça, mais vraiment pendant, je sais pas, 2 ans, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, au casque, attentivement, comme un travail, quoi. Et plus j'écoutais, plus j'entendais tout, de plus en plus précisément. Il y avait pas une note qui m'échappait, quoi. J'entendais tout de plus en plus clairement. Du coup, bon, je commençais à me sentir presque prêt à essayer. Et là, un jour, Luc vient chez moi et il me dit, tu sais, j'ai réfléchi, finalement, on va pas faire de musique symphonique parce que c'est pas notre culture. Parce qu'effectivement, on écoutait, à part moi, cette période-là, on écoutait Sting, on écoutait voilà, de la pop, quoi. Et là, dans ma tête, j'avais envie de dire, t'es gentil, c'est pas ta culture, peut-être, mais moi, ça commence à être sérieusement la mienne. Mais comme en même temps, ça me soulageait quand même, soudain, j'avais plus la pression, donc j'avais encore du temps pour me préparer, donc j'étais ravi. Parce que lui, il se rendait pas compte, quoi, que au départ, j'étais pas forcément capable de composer de la musique symphonique. Mais je me suis rendu compte, quand j'ai composé la musique du Grand Bleu, justement, que ça avait complètement changé ma façon de concevoir la musique, parce que j'avais découvert un autre univers musical, une autre dimension. Donc ça m'a ouvert l'esprit vers d'autres choses, et bah, mine de rien, toutes ces musiques classiques-là, ça m'avait énormément inspiré, voilà. Bon, alors maintenant, pour poursuivre, on va passer quelque chose qui n'a aucun rapport, mais c'est une chanson qui me bouleverse particulièrement, et je vous dirai après pourquoi.
Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bounia, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au combat. Maudite Mathilde, puisque te voilà. Mon cœur, ne t'emballe pas. Fais comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été, la Mathilde qui est revenue. Mon cœur, arrête de brinque-baller. Souviens-toi qu'elle t'a déchiré, la Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non. Dites-moi, dites-moi qu'il ne faut pas, maudite Mathilde, puisque te voilà. Et vous, mes mains, restez tranquilles, c'est un chien qui nous revient de la ville, Mathilde est revenue. Et vous, mes mains, ne frappez pas, tout ça ne vous regarde pas, Mathilde est revenue. Ne tremblez plus, souvenez-vous quand je vous pleurais dessus, Mathilde est revenue. Vous mes mains ne vous ouvrez pas, vous mes bras ne vous tendez pas, sacrée Mathilde, puisque te voilà. Arrête tes prières, ton chagrin retourne en enfer, Mathilde est revenue. Ounia, apporte-nous du vin, celui des noces. C'est des festins, Mathilde m'est revenue. Toi la servante, toi la Maria, va tendre mon grand lit de drap, Mathilde m'est revenue. Ami, ne comptez plus sur moi, je crache au ciel encore une fois, ma belle Mathilde, puisque te voilà.
Donc voilà, ça c'était Jacques Brel, Mathilde. Alors Jacques Brel, j'ai eu la chance de le connaître quand j'étais gosse, parce que c'était le meilleur ami de mon père. À cette époque-là, alors au tout début, on habitait Paris, parce que je suis né à Paris. Mais à l'âge de 5 ans, on est parti dans le sud de la France, parce que ma mère était très malade et que les toubibs avaient dit qu'il fallait quitter Paris si on voulait qu'elle finisse ses jours le plus tranquillement possible. Et mon père a donc tout abandonné à l'époque, parce qu'il était artiste. Ça marchait très fort. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il était pote avec Brel, en fait. C'était une espèce de bande de potes, quoi. Donc on est parti vivre dans le sud. Et à cette époque-là, Brel, de temps en temps, disparaissait pendant une semaine, deux semaines. Les médias le cherchaient partout. Personne ne savait où il était, il disparaissait volontairement pour s'isoler, être tranquille. Et en fait, il venait chez nous, dans le sud, il arrivait avec son petit avion, il atterrissait à l'aéroport de Perpignan, en secret quoi. Et il venait chez nous, passait deux, trois semaines, et puis après il réapparaissait. Et moi donc j'ai connu Brel pendant toute mon enfance comme ça. Et bon, j'étais gosse, donc je me rends pas compte que c'était une star. C'était juste pour moi, c'était un mec de la famille quoi, c'était comme mon oncle. Il était évidemment adorable. Et par la suite, j'ai regretté de ne... Parce qu'ensuite, on s'est un peu... Ben, on s'est complètement perdu de vue, même quand il est parti vivre aux Marquises. Et le jour où j'ai commencé à écrire mon premier album solo, et j'avais emmené notamment l'intégrale de Brel, parce que je voulais donc écrire des textes. Et pour moi, c'était lui la référence en matière de texte. Et j'ai donc beaucoup, beaucoup écouté toute son intégrale à cette époque-là. Et plus j'écoutais, plus je trouvais ça sublime. Et alors, ce morceau particulièrement, là, Mathilde, il y a un moment, là, à la fin, là, la modulation, là, où à chaque fois, ça me fait pleurer, quoi. C'est tellement sublime. Puis lui, pour moi, c'est le plus grand interprète de tous les temps, quoi. Il a une force émotionnelle dans son interprétation. Il est tellement expressif. Enfin bref, je suis archi fan de ce gars et je suis tellement heureux d'avoir eu la chance de le connaître. Alors, on arrive malheureusement à la fin de l'émission. Et pour se quitter, je vous ai prévu un morceau d'un groupe qui s'appelle Magma, qui est un groupe français dont je suis archi fan depuis que j'ai 15 ans à peu près. J'avais un groupe à cette époque-là de rock, quoi. Et c'était un mec qui nous initiait, qui nous faisait écouter des trucs. C'est lui qui m'a fait découvrir Frank Zappa, dont je suis archi fan aussi. Et il me faisait écouter Magma, et je trouvais ça mais inaudible. Un peu comme la première fois que j'écoutais Stravinsky. Et puis, il insistait, puis je trouvais ça inaudible. Et jusqu'au jour où il m'amène, presque de force, voir Magma au théâtre de la Porte Saint-Martin, où ils avaient fait une résidence pendant une semaine. Et on va là-bas le premier soir. J'y allais vraiment à reculons, parce qu'a priori, j'aimais pas du tout. Et là, dès la première seconde du concert, j'ai été hypnotisé par Christian Vander. Je suis devenu fan instantanément. Et à partir de là, je suis devenu archi fan de Christian et de sa musique surtout. C'est-à-dire que, je sais pas, il s'est passé un truc, j'ai compris soudain cette musique-là, et j'ai toujours adoré ça, et au point que donc, cette semaine-là, je suis retourné tous les soirs voir ce groupe, et tous les soirs, j'avais les yeux rivés sur Christian et Yannick Top à la basse à l'époque. Et bref, c'est un groupe, voilà, j'adore Magma. Voilà, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas, donc je voulais absolument parler d'eux et finir avec ça. Merci.
Doch und ich steu war, und die Lehist und der Joschka, der will die Lehost, du und ich, die Bühr, da wäre die ja Wäschowska, da wäre die ja Wäschowska, da wäre ich, wenn ich von du und ich, da wäre ich, wenn ich nicht mehr hat,
c'était la radio d'Éric Serra. J'espère que vous avez fait bon voyage. Merci mille fois à France Inter de m'avoir laissé les commandes. Je vais maintenant sortir de la cabine. Je vous rends les clés. Bonne soirée. À bientôt.
Bravo.
Tu vois, quand il faut faire court, regarde l'heure. Regarde bien.
Mais bravo, parfait. Atterrissage réussi.
Oh putain.